prétexte narratif. Et j'avoue que je suis très impressionné parce que là, nous avons une table avec un nombre d'auteurs de la fantaisie française particulièrement représentatif. Alors, je commence par ma voisine, Nathalie Dau, que l'on connaissait d'abord pour ses contes myalgiques, Les Terres qui rêvent et puis Les Atouts du Diable, qui était plutôt, je dirais, un peu du fantastique, centré autour des légendes diverses et du folklore. Et puis, ensuite, vous aviez écrit un roman qui s'appelait Les Débris du Chaudron, qui là était plutôt, on dirait, de la mythologie celtique à partir des vieilles légendes du Pays de Galles. Et puis, dans votre tout dernier roman, vous avez complètement changé avec La Somme des Rêves, où là, on passe dans un univers totalement médiéval, avec une quête pour trouver finalement le héros Cédric trouvera ce qui constitue la somme des rêves. Donc je pense que là, justement, ça va être très intéressant par rapport au sujet de cette table ronde, de voir pourquoi vous êtes passé d'un univers à un autre. À côté de Nathalie, Régis Godin, qui est un tout nouveau venu, hein, je crois qu'on peut le dire, sur non seulement la scène de la fantasy, mais sur la scène du roman en général, puisque vous avez avec le livre des Sept Rois, dont trois volumes jusqu'à maintenant sont sortis, et je crois que manifestement on peut en attendre encore quelques autres pour que vous puissiez exprimer tout ce que vous avez à dire. Là, nous sommes dans un univers très curieux, totalement médiéval, hein, de sept royaumes qui sont autour d'une mer centrale, et où, enfin, c'est très riche, donc c'est très injuste en même temps ce que je veux dire, mais où principalement, je dirais, on suit d'abord la quête d'un personnage qui s'appelle Orville, qui part dans le premier volume à la recherche de deux enfants qui ont été mystérieusement enlevés, et à partir de là, tout le reste va en découler. À côté de Régis Godin, Justine Liogret, que l'on connaît d'abord pour son premier roman Chien du Home, qui était un roman où Chien du Home est une femme mercenaire, là aussi dans un univers médiéval, mais on est plutôt quoi, la fin du Moyen-Âge, on pourrait dire, quelque part. Enfin, c'est
mal.
Oui.
Voilà.
Oui.
Ensuite, la suite des aventures de Chien du Home dans Mordre le Bouclier. Alors, Chien du Home a été couronné par plusieurs prix, dont le Grand Prix de l'imaginaire, pour lequel j'ai le plaisir de voter pour vous. Voilà. Je ne résiste pas à le dire. Vous avez écrit aussi un petit peu de science-fiction avec le Gueule de Truie. Et puis, vous êtes revenu tout à fait récemment à cet univers de fantasy avec Mordred, où là, évidemment, vous êtes attaqué au héros, le traître abominable de tous les romans arthuriens, et vous l'avez complètement transformé, on va en reparler, mais vous avez une approche de Mordred qui a dû en surprendre plus d'un. Et tout au bout de cette table, Jacques Martel, qui a commencé dans la fantasy avec Sacrifice du guerrier, deux volumes où on était. Alors là, vous avez fait de la fantasy qui était plutôt dans un décor un peu antique. Vous êtes le vilain petit canard, je dirais, quelque part ici. Vous avez fait plutôt dans un décor de fantasy antique, hein, gréco-perse.
Une antiquité. Fantastique qu'aurait pu être la nôtre avec des divinités différentes, mais une façon de penser qui est celle que pouvaient avoir nos ancêtres dans l'Antiquité.
Voilà, et puis ensuite, bah, vous aussi vous êtes passé un petit peu à la science-fiction avec le Code Bloody Mary
et les pirates,
voilà. Et puis vous êtes revenu récemment là aussi à la fantasy avec la guerre de l'île, où on est dans le même univers grosso modo que celui de Sacrifice du guerrier, mais manifestement quelques siècles plus tard, dans un environnement qui là se situerait plutôt au moment des grandes invasions huniques en Europe.
C'est pas quelques siècles plus tard, la période est quasiment la même, mais c'est pas du tout au même endroit dans le monde. Donc effectivement, on se retrouve plutôt à une période de grandes invasions. Voilà, c'est une ville qui est assiégée par des conquérants.
Par l'hydre qui est le Khan des Khans des nomades.
Qui pourrait être Gengis Khan.
Gengis Khan ou Attila.
Un des deux. Aussi sympathique l'un que l'autre.
Voilà. Donc, comme vous le voyez, avec ces quatre auteurs de fantasy, nous avons des univers qui, pour trois d'entre eux, sont, disons, je dirais, et ça n'a rien de péjoratif, mais entre guillemets, des univers de fantasy classiques, ceux dont on a l'habitude depuis toutes les fantaisies arthuriennes des années 90, et puis Jacques Martel, un petit peu différent. Donc, alors, entamons tout de suite les hostilités. Alors, univers médiéval, passion ou prétexte narratif. Pourquoi avez-vous choisi chacun cet environnement?
Je me lance.
Alors, Jacques.
Mais moi, j'ai choisi l'Antiquité. Alors, il faut savoir qu'au départ, Sacrifice du guerrier, je voulais faire dans un univers moyenâgeux. Et j'ai commencé à le faire au Moyen-Âge. Mais les personnages que je présentais ne cadraient pas avec le contexte moyenâgeux. Il fallait un contexte qui permette des personnages plus grands que nature, des héros qui soient des légendes vivantes, à la limite sur plusieurs générations. Et dans mon esprit, il n'y avait que l'Antiquité qui pouvait permettre ça. D'où le choix de le placer dans un univers antique, de le réécrire. Je n'avais pas écrit grand-chose, peut-être 30% du roman, le réécrire dans un univers antique avec des personnages antiques. Et là, ça, pour moi, ça fonctionnait.
Oui, parce que le roi solitaire et la reine vierge sont quasiment des demi-dieux à la grecque.
Exactement, c'est ça. Ils sont devenus des légendes. Et d'ailleurs, les noms qu'ils ont, roi solitaire et vierge, ne sont pas leurs propres noms. C'est le nom que leur donnent les poètes. Et les gens ne savent même pas comment ils s'appellent. Eux-mêmes n'ont plus que leurs amis, qui les ont connus avant, qui savent quels sont leurs vrais noms. Pour tout le monde, c'est le roi solitaire, la reine vierge. Quand ils arrivent quelque part, on attend quelque chose d'eux. Parce que ce sont les héros que tout le monde a toujours connus. Et ça, dans un contexte moyenâgeux, j'arrivais pas à le passer.
De même pour votre personnage du Hobbit, le nom indique bien ce qu'il est quelque part.
Ah oui, le guerrier, la mort, qui accompagne les héros. Parce que pour moi, dans mon état d'esprit, n'importe quel guerrier est accompagné par la mort et normalement va finir mort. Tous les héros d'ailleurs, bon, je suis peut-être un peu pessimiste, mais les grands héros, tous ceux dont le nom reste, sont des gens qui sont morts, qui ne sont pas morts dans leur lit.
Justine Mioguerès, alors où la réponse va peut-être être un peu plus évidente, parce qu'il faut savoir quand même que Justine Mioguerès, mis à part ses talents d'auteur, est une personne qui, chez elle, forge ses épées dans son salon, tricote ses côtes de maille, va abattre des arbres à la hache, etc. Donc...
oui, moi, c'est les deux, en fait. C'est autant une passion personnelle pour le passé, quel qu'il soit, effectivement un prétexte narratif. C'est exactement ce que tu dis, il y a des personnages plus grands que nature qui sont vraiment ridicules ici, ou qui finiraient dans un hôpital psy, ou à qui il n'arriverait vraiment que des horreurs. Donc le Moyen-Âge, l'Antiquité aussi permettent de mettre un petit peu plus à nu, en plus l'humain, un petit peu débarrassé de toutes nos contingences quotidiennes qui sont quand même, il me semble, assez lourdes.
En plus de ça, dans votre Moyen-Âge, et contrairement là à l'environnement de Mercure, ou antique, les trois autres auteurs qui sont présents, vous, la magie et le merveilleux n'existent quasiment pas. On est dans un Moyen-Âge de sang, de larmes et de souffrance, mais il n'y a quasiment rien qui vienne essayer d'atténuer cela.
Justement, contrebalancer ça par de la magie, ça, c'est, enfin, je, c'est, c'est plutôt très positif. Ça voudrait dire que la magie est de toute façon quelque chose d'agréable, quelque chose de gentil, quelque chose qui participe au bonheur et à l'épanouissement. Et j'en suis pas convaincue. Je pense que dans l'histoire humaine, il y a eu beaucoup de magie blanche. C'est la magie verte aussi, je crois, qui participait à la... qui nous aidait, nous. Mais il y a eu beaucoup de magie très agressive. Et il me semble que dans les terroirs, la magie qui reste, c'est plus pour ennuyer son voisin que pour être plus heureux soi-même. Donc, je mets très peu de magie. Mais si j'en mettais, ça ne serait pas forcément de la magie d'aide et de la magie positive.
Alors justement, c'est parfait parce que ça fait la transition avec ce qu'écrit Régis Bonin, parce que c'est vrai que chez vous, les magiciens, ce sont les gens qui ont un sang bleu, et un sang bleu au sens là véritablement physique du terme, c'est-à-dire qu'on les coupe, le sang qui sort est bleu. C'est vrai que la magie, c'est pas très agréable finalement dans la plupart des cas d'être mage.
Dans les sept. Ça dépend parce que en réalité le sang bleu est peut-être lié à ces questions de mage, peut-être pas, et on ne sait pas comment.
Pas de spoiler.
Mais donc pour répondre à la question, la magie intervient comme étant une espèce d'outil. Et chaque personne qui va se retrouver avec cette potentialité va chercher à faire quelque chose avec en fonction de communication. Et ça renvoie à la question qui était plus à l'origine, c'est pourquoi le Moyen-Âge. Ce qui m'intéressait beaucoup dans cette période, c'est que ce sont des structures étatiques, des structures sociopolitiques qui sont extrêmement figées. Et ça rend des temps d'heure sur le plan de l'innovation extrêmement intéressant, parce que il y a le kyrgyzka, il va y avoir la noblesse, il va y avoir la religion, d'une certaine manière, et chacun, en fonction de sa naissance, a une destinée, est prédestiné pour vivre une de ces vies-là. Et je ne connais pas vraiment d'autres périodes qui permettent aussi bien de travailler sur cette notion-là. On est prédestiné, mais il y a la question de la magie, il y a la question des tensions entre ces différentes factions. Et plus qu'une passion pour le Moyen-Âge, c'est certainement une passion pour les systèmes politiques et leur manière de gérer justement les tensions internes. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles ça m'intéressait, parce que le grain de sable, justement, c'est cette question de la transmission de la réalité et de la magie. Par ailleurs, la question du sang bleu est liée dans l'histoire à la question de la noblesse, en manière générale, et qui dit noblesse, on voit aussi en termes d'imaginaire à cette question du Moyen-Âge. Ce qui fait que c'est le contexte médiéval s'est imposé pour des raisons narratives. J'en avais besoin, d'une structure figée pour amener justement ces résultats-là.
Et vous, Nathalie Do, justement, c'est d'autant plus intéressant que dans votre cas, vous avez fait un choix, vous êtes passé d'un environnement qui était plutôt un environnement de légende traditionnelle revisité par vous, maintenant à un environnement de fantasy plus, entre guillemets, traditionnel.
Alors c'est là qu'il gagne, en fait, c'est l'inverse.
Ah.
Voilà, donc ce qui se passe, c'est que depuis toute petite, je suis très attirée par le Moyen-Âge, mais plutôt par le début du Moyen-Âge, parce que c'est quand même 1000 ans d'histoire, et le début du Moyen-Âge et la fin du Moyen-Âge, ça n'a rien à voir. Donc je me sens plus proche du Moyen-Âge, lui-même proche de l'Antiquité, et même dans certaines régions, de Moyen-Âge encore proche de l'époque préhistorique. Donc, parce qu'on n'a pas toujours eu des antiquités éclairées, entre guillemets, comme on peut avoir en Grèce ou en Égypte. Il y a vraiment eu des périodes, enfin des espaces géographiques, où on est passé quasiment d'un mode de vie néolithique à un mode de vie médiéval. Donc ce sont les âges sombres, essentiellement, qui m'inspirent, qui me parlent, justement, parce qu'ils sont très peu connus. Même les historiens ne savent pas encore tout à leur sujet, donc ce sont des périodes qui permettent à l'imaginaire de se lâcher, honnêtement, donc on peut imaginer beaucoup de choses. En parallèle, depuis l'enfance, j'ai lu beaucoup de livres d'histoire, et j'ai lu beaucoup de livres de mythes, légendes, contes, folklore, etc. Pour moi, ce n'est pas possible de séparer les deux. Un mythe est le reflet de l'époque dans laquelle il apparaît et a une influence sur l'époque dans laquelle il apparaît. Donc, j'ai toujours écrit, mais j'ai vraiment commencé à réfléchir comme un écrivain et à entreprendre une œuvre qui, pour moi, si j'étais un compagnon, ce serait mon chef-d'œuvre, mais pas dans le sens où on entend la meilleure des œuvres, mais l'œuvre qui tient le plus à cœur. Donc, ce je l'ai entreprise en juillet 1987. Donc, j'ai certains de mes lecteurs qui n'étaient pas encore nés. Et ce que j'ai entrepris, c'était ce qui est sorti récemment sous le titre La Somme des rêves. Et il m'a fallu des années, parce que j'ai commencé en fait par être possédée, quelque part, par des images, des moments de cette histoire qui en fait vont se passer dans le tome 4 et le tome 5 du cycle. Ce qui fait qu'il m'a fallu des années pour recevoir tout ce que j'avais le sentiment de recevoir, pour le mettre en ordre, pour comprendre et bâtir la chaîne des causalités, apprendre à comprendre et à aimer tous les personnages, parce que j'en ai une vision extrêmement vaste et arborescente en plus. Ce qui fait que, à un moment donné, les éditeurs qui savaient que j'écrivais, qui avaient vu des petits mots, m'ont proposé d'écrire pour eux des nouvelles. Et dans les nouvelles, j'ai pas voulu se copier l'univers que je bâtissais. Donc je me suis intéressée à d'autres thèmes, d'autres sources d'inspiration qui étaient les mythes, les gens des folklores de la Terre. Puisque mon cycle de fantaisiste, ça se passe sur Terre, c'est un sur modèle, qui a les aspects de certains côtés du Moyen-Âge historique, mais pas tous, qui est prouvé d'anachronisme. C'est pas du tout un monde situé dans l'histoire terrestre, c'est vraiment un monde spécifique pour lequel le rapport à la mort n'a rien à voir avec celui qu'on a pu avoir en Europe en tout cas. Et donc j'ai écrit tout un tas de textes, ceux que vous avez mentionnés, et en même temps ça m'a permis de forger ma plume, de corriger mes défauts de jeunesse, notamment j'avais un peu tendance à pratiquer trop les livres, donc j'ai un peu corrigé ça. Et le jour où vraiment je me suis sentie prête, j'avais enfin trouvé sous quel angle aborder mon vaste cycle, il est arrivé. Et il est encore en cours de travail et c'est... j'écris quasiment pour rien d'autre. Pour moi, ma vie, c'est ça. Et c'est pourquoi ce mot-là, cette période-là, parce que ce sont les contextes dans lesquels je me sens confortable. À partir du moment où commencent à arriver des inventions comme la palette et le canon, ça y est, on l'a. C'est trop moderne, c'est plus chez moi.
D'accord. Plus moderniste.
En fait, mon idéal de vie, ce serait une grotte d'ermite, mais avec la DSL.
Ah, quand même.
Pour beaucoup,
oui. Et c'est un écureuil dans une cage qui pédale pour
non,
pouvoir
poser l'électricité. C'est la magie, l'électricité, c'est la foule d'électricité, bien sûr.
D'accord. Alors, une chose aussi qui va frapper maintenant qu'on a vu un petit peu, qu'on a mieux compris un petit peu le choix. De cet environnement. Moi, il y a une chose qui m'a frappé dans vos quatre cas, c'est que le personnage principal, parce que bon, il y a toujours beaucoup de personnages, mais il y a en particulier un personnage principal chez chacun d'entre vous. Et donc, ce personnage principal, il est toujours lancé dans une quête. Alors, dans la fantaisie traditionnelle, c'était habituellement, dans la fantaisie arthurienne, on est toujours à la recherche du Graal. Hein, ensuite, dans d'autres fantaisies, on doit chercher un objet, une épée enchantée, etc., etc. Et chez vous, ce qui m'a frappé, c'est que, il peut y avoir la quête d'un objet éventuellement, mais la vraie quête, quelque part, c'est toujours, pour un personnage, la quête du soi, la quête de son propre identité, de qui il est vraiment. Alors, est-ce que c'est être soi-même qui est atteindre le Graal?
Je dirais que oui. Effectivement, dans Sacrifice du guerrier, un des personnages principaux s'appelle qui est un sorcier. Alors là, je rebondis sur ce que disait Martine. Moi, c'est un sorcier, évidemment. Il utilise une magie pour devenir puissant. Une magie qui n'est pas noble, qui n'est pas belle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'est pas aimé. Ses amis l'appellent le libre tisseur, parce qu'il fait partie des gens qui sont libres de leur destin. Parce que lui a volé le fil de son destin sur la tapisserie que tissent les dieux. Donc il est libre de faire ce qu'il veut. mais pour le reste des gens, c'est le sombre distingue. Parce que ça reste un sorcier. Et quand il intervient, c'est pour de la guerre, c'est pour des royaumes. Il ne va pas utiliser la magie pour faire trois pièces d'or. S'il utilise la magie, c'est pour devenir puissant. Et y a pas de, pour moi, il n'y a pas de petit sorcier, il n'y a pas de petit guerrier. Dans ce monde-là, il n'y a pas de petit. Ils n'existent pas. Il n'y a pas de traître, on n'en parle pas. Sachant effectivement, je trouve qu'à la fin, le narrateur, quand lui-même est un des héros, explique que peut-être que les choses ne se sont pas passées tout à fait comme ça. Peut-être qu'il y a eu des petits, peut-être qu'il y a eu des mesquins, mais ils ont été enlevés de l'histoire parce qu'ils ne peuvent pas rester dans l'histoire. Et donc, tous mes personnages.
C'est le darwinisme social en action.
Exactement. Avec une morale, le petit, le mesquin, il disparaît, on n'entend pas parler, il ne sera pas un exemple. Mais effectivement, mes personnages luttent contre le destin, ou dans le cas du roi solitaire et de la reine vierge, j'en parlais, contre la légende qui les entoure, qui les enferme. Et contre leur passé, leur enfance, ce qu'on attendait d'eux. Et c'est vrai que chez moi, c'est un thème, on l'a fait remarquer une fois, je ne l'avais pas rendu compte avant, récurrent. Tous mes personnages ont un passé que j'explique tôt ou tard, et on s'est aperçu qu'après, là, le troisième roman, et contre lequel ils luttent.
C'est le cas aussi dans les guerres de
Troie. Oui, effectivement, le conquérant, le libre, là, il lutte pas contre son destin, mais effectivement contre une image que certains auraient pu avoir de lui et qu'il veut changer. C'est comme ça.
Et aussi la reine qui assiège la ville, qui a fédéré.
Effectivement, elle lutte, elle, contre ce qu'ont fait les six, ses six prédécesseurs, prédécesseurs, je ne sais pas, prédécesseurs, voilà, qui avaient un mode de vie, et elle décide de tout changer, de lutter contre ça pour devenir elle-même, non pas ce qu'on attendait. D'ailleurs, le gamin dans la cité également lutte contre ce qu'il en fait, lui, il rêve de quitter la ville. Et c'était la base, par contre, de la guerre de l'île au départ. Je ne sais pas quel titre lui donner, mais les trois personnages luttent pour sortir d'un cercle dans lequel ils sont enfermés. Chacun à leur façon et chacun dans un contexte différent.
Ah ben
voilà. La quête de soi, oui, c'est pas du tout une critique, c'est vraiment une question de sensibilité. Même dans ce que je lisais depuis toute petite, c'est jamais vraiment les grands rebondissements, les grandes quêtes extérieures à soi-même qui me parlaient. Pour un truc très bête, c'est que j'ai un peu l'impression que c'est un marché de dupes. Quand on commence un livre avec des personnages qu'on apprécie et qui vont essayer de faire quelque chose, ils vont toujours plus ou moins réussir. Même s'il y a beaucoup d'exceptions, mais on ne sait pas ce que eux vont devenir intérieurement. Et j'apprécie grandement les livres qui vous aident vous-même à grandir et qui vous aident à répondre à des questions que vous vous posez vous-même. Personnellement, je n'ai jamais été piller une banque, je n'ai jamais lutté main à main avec le FBI, je n'ai jamais tué de dragon. Donc je ne me sens pas forcément concernée viscéralement par ce genre de préoccupation, mais j'apprécie de voir la nature humaine et des personnages dans qui on peut se reconnaître ou se détester ou sortir d'un livre où on se connaît un petit peu mieux et où on s'accepte un petit peu mieux, où on accepte les gens qui sont autour de soi. Et pour moi, et encore une fois, c'est juste une question de goût personnel, c'est ces livres-là que j'ai apprécié de lire et c'est des histoires comme ça que j'essaye d'écrire.
Parce que ce soit le chien du monde, en fait, ce chien. Parce que d'abord, elle n'a pas de nom, elle n'a que ce surnom.
Si on est pareil.
Oui.
Et puis, aussi, dans Mordred, alors là, prenez complètement à contre-pied la légende arthurienne traditionnelle, hein, où Mordred, c'est vraiment des mots, le salaud, le traître, le moins que rien, etc. Et là, vous en faites un personnage excessivement tourmenté. Bon, il y a de quoi, puisque en fait, ce serait le fruit de la relation incestueuse entre son père, le roi Arthur, et sa mère, Morgause, qui était la sœur d'Arthur. Alors évidemment, il ne faut pas s'étonner que son père n'ait pas reconnu. Et en fait, il cherche l'amour et la reconnaissance de son père à travers tout le roman, à un point, il en devient finalement quelque part sympathique.
Sympathique, je ne sais pas trop, parce que quand on... Enfin, je ne sais pas si vous avez eu la même expérience, mais même quand on décrit quelqu'un qui est là pour être le méchant du livre, on finit par être touché par lui. Et on ne peut pas... Mais dans Mandret, ce que je voulais essayer de montrer aussi, personne n'est un cliché à ce point, personne n'est le grand méchant, personne n'est le grand gentil, et quand on vit, on fait ce qu'on peut, en fait. Je pense que c'est un livre qui parle de ce qu'on fait quand on devient adulte, et je pense qu'on fait juste du mieux qu'on peut, qui qu'on soit.
Aussi, il y a une quête de l'identité, en particulier d'abord chez Orbi, qui est quelque part le point de départ, et qui est un personnage que vous découvrez au début comme un simple gendarme, ou un petit lobbyo d'un vicomté fin de province totalement paumé. Lui-même, il est décrit comme un sergent à deux gras, dont la passion finalement c'est d'essayer de couvrir les filles quand il le peut et puis de boire un verre avec les copains.
Mais oui, tout à fait. Dans la figure un peu récurrente du parcours d'initiative, on cherche quelque chose et puis on trouve soi. C'est toujours un petit peu ça, effectivement. Cela dit, contrairement à ce que disait le mec, il n'y a pas de grands hommes dans mon histoire. Il n'y a pas de grands hommes, il n'y a pas de grands personnages. Effectivement, chacun va avoir une petite action à mener, va chercher effectivement à se débrouiller avec ce qu'il y a. Et c'est toute l'histoire en elle-même qui va avancer avec la somme de toutes ces petites choses, de tous ces petits éléments qui vont permettre à chacun finalement de se découvrir. Orville, sa caractéristique un petit peu, c'est qu'il c'est pas un héros, et c'est pas non plus un anti-héros. C'est un homme normal. Un homme normal qui exerce un métier, qui est un soldat, c'est un peu paumé, avec des préoccupations de soldat, bon camarade, il n'a pas de caractéristiques particulières, il est extrêmement lisse en réalité. Et ce qu'il va découvrir dans son parcours initiatique ne nous permet pas forcément, aussi facilement, de découvrir beaucoup plus ce qu'il va faire comme il peut en fonction des circonstances. Et il se découvre certainement, nous le découvrons aussi. Mais c'est l'histoire, en gros, qui est un parcours initiatique, assez large. Les autres protagonistes de l'histoire fonctionnent aussi selon cette logique-là. Pratiquement tous, si on les substitue à notre personnage ou si on les enlève, l'histoire continue d'avancer. Comme une société comme la nôtre avance finalement en se façant très facilement des égos et des particularités des gens. C'est une histoire qui parle un petit peu de ce que je dis, un petit peu de la vie qui s'avance avec chacun qui se positionne, qui cherche à savoir qui il est dans l'univers, qui se cherche, mais qui n'est pas sûr de découvrir forcément quelque chose de tout à fait extraordinaire. Voilà, et puis à la fin on arrive et puis on a apporté sa pierre, on a apporté quelque chose en fonction de ce qui nous a été donné, en fonction de ce qui a été possible. Et il y a effectivement des quêtes identitaire, hein, chez Orville, chez Rosa, chez tous les autres personnages.
Même Rose,
qui au départ, Rose c'est un personnage particulier parce que c'est une femme qu'on ne voit pas au début, on la verra beaucoup plus tard dans l'histoire. C'est une femme qui a un prénom d'or, dont on ne sait même pas si c'est un prénom qui existe en réalité, parce que c'est plutôt une famille d'un peintre en réalité. Donc effectivement c'est un mystère, on sait que c'est quelqu'un qui a fait quelque chose d'important à un moment donné dans l'histoire, mais ça reste en suspens, c'est une abstraction. On fera cette connaissance plus tard, mais elle-même ne sera qu'un rouage. C'est-à-dire que ce n'est pas un héros, ce n'est pas un monde de héros, de semi-héros, c'est un monde de gens qui défendent un peu leur point de vue. Et donc on ne sait pas non plus finalement qui a raison, qui a tort. On commence par un point de vue particulier qui va donner, comme un peu tous les livres, un premier regard. On sait qui sont les bons, qui sont les méchants, mais la vie, ce n'est pas comme ça. La vie, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas aussi manichéen. Chacun son point de vue, chacun fait avancer sa cause. Et se découvre en faisant avancer cette cause.
Nathalie Dau, avec Cerdic, fils rejeté par sa mère, lui aussi c'est un personnage tourmenté, le père inconnu.
Oui, alors là encore, Cerdic semble être le héros, en tout cas il est le narrateur principal du tome 1, mais c'est pas lui le héros du cycle, c'est son frère.
Mais ça, c'est ce qu'on découvrira dans les tomes suivants.
C'est ce qu'on découvre au fur et à mesure. On s'en rend quand même un petit peu compte. Parce que c'est vrai que le destin de Cédric bascule à partir du moment où il rencontre sa madame. Et pour Cédric, effectivement, la quête identitaire est importante parce qu'il est né d'une mère qui n'en a pas voulu, qui a tout fait pour essayer de le faire passer et qui a réussi. Et d'un père qui n'est pas au courant qu'il a été conçu. Donc, si encore. Il avait reçu de l'amour, mais il est noble, il est rendu au milieu des serviteurs, donc forcément il ne reçoit pas d'amour, parce qu'il y a le respect, la notion de classe, etc. Ensuite, il est embarqué dans ce château, dans un bombard de pages, il est mélangé avec tous les autres pages, il se retrouve dans des intrigues de cour avec une mère qui est manipulatrice et qui est calculatrice et qui se sert de lui comme d'emprise. Comme lui, il n'a pas une nature compatible avec tout ça, il est fort, donc elle est déçue. L'aimer pour tout un tas de raisons, et on comprend mieux dans le tome 2 pourquoi elle a jamais pensé à l'aimer d'ailleurs. Et lui, ce qu'il cherche peut-être plus que son identité, c'est à quoi il sert, quel sens donner à sa vie, qu'accomplir de son existence. Et donc c'est vraiment sa quête. Il va trouver une réponse qui n'est pas forcément celle à laquelle il s'attendait, qui n'est pas forcément plus celle qu'on aurait aimé qu'il trouve, enfin, son Seigneur et les autres personnes. Et à côté de ça, il y a quelque chose qu'a dit Régis, que je ne trouve pas très vrai et qui nous est commun à tous, c'est que nos histoires ne sont pas manichéennes. Et c'est vrai qu'en fantasy, enfin, quand j'ai lu nos prédécesseurs, les auteurs anglo-saxons notamment, on a toujours, soit suivant, les gentils contre les méchants. Et ça, c'est quelque chose que j'arrivais pas à ressentir. Pour moi, le bien et le mal sont partout et sont vraiment question de point de vue de ce qu'ils racontent. Et je voulais montrer des personnages qui soient vraisemblables, qui soient humains. Il n'y a personne qui a que des qualités ou que des défauts. Vous avez des personnages du tome 2 aussi. Même Nerazia, la mère de Cédric, il y a des gens qui m'ont dit c'est un peu la caricature de la méchante reine. Ah oui, non, parce que la méchante reine, elle est méchante, mais on ne sait pas pourquoi. Là, elle n'est pas méchante, elle n'aime pas son fils. Mais après, elle n'est pas forcément méchante avec les autres personnes. Et ensuite, on comprend, elle a des raisons. Tout s'explique, tout a une cause, finalement. Donc, quelque part, les auteurs, c'est un peu les psychanalystes de leur personnage. On apprend à les comprendre sur son écriture. Et en racontant leur histoire, on les fait parler.
C'est vrai qu'effectivement, il y a une complexité psychologique des personnages qui n'existait pas dans la fantasy il y a une quarantaine d'années, où là c'était facile, c'était comme dans les westerns, hein, on reconnaissait, il y avait le bon qui avait les culs, le chevalier qui avait les culs blancs, et le méchant c'est celui qui avait les culs noirs, donc c'était facile, on s'y retrouvait. Et c'est vrai que maintenant, en particulier au roman, il y a une complexité des personnages et aussi une évolution des personnages. Avant, ils étaient assez monolithiques. Aujourd'hui, dans vos romans, on voit des personnages qui évoluent au fur et à mesure. Et justement, ça m'amène quelque part en même temps à la question suivante que vous avez déjà un petit peu abordée. C'est qu'en fait, j'ai vu à chaque fois les personnages principaux sont quelque part d'abord enfermés dans un destin qui est programmé pour eux. C'est comme ça qu'ils doivent être, soit parce que c'est l'image que les autres ont d'eux et qu'ils sont censés s'y conformer, soit c'est que les dieux, Dieu a voulu cela, c'est-à-dire un petit peu en même temps l'image justement qu'on a des enseignements de l'Église catholique au Moyen-Âge, qui maintenait tout le monde, et vous avez parlé de société, justement, votre intérêt pour les sociétés médiévales qui ont une organisation extrêmement structurée, et il y a l'Église qui chapeautait tout ça, en disant, voilà, si vous êtes à cette place, c'est parce que c'est ainsi que Dieu l'a voulu, donc vous n'avez qu'à vous incliner devant la volonté de Dieu. Éventuellement, ça se passera beaucoup mieux une fois que vous serez au paradis après votre mort. Mais en attendant, surtout, vous ne faites rien. Et donc, du coup, à chaque fois, c'est la révolte du personnage contre ce destin imposé. Donc, est-ce que quelque part, c'est ça, cet environnement médiéval, c'est une rébellion contre l'enseignement traditionnel de l'Église ? Ou contre l'enseignement traditionnel de la société en général ?
Oui, parce que effectivement, voilà. Moi je suis placé dans un monde antique, j'ai pas d'église, moi j'ai des gens qui, suivant le lieu d'où ils viennent, des coutumes, des dieux différents, des fois même ce sont les mêmes dieux mais avec des noms différents, suivant l'endroit d'où viennent les gens, mais les personnages ont pour caractéristique principale de lutter contre ce qu'on attend d'eux au départ, quitte à effectivement changer au fur et à mesure, comme par exemple le méchant qui est dans la cité entre guillemets, qui la dispute à quelqu'un d'autre et qui préférera que la cité appartienne à son adversaire plutôt qu'à un étranger venu de l'autre bout du monde. À ce moment-là, il est prêt à se sacrifier pour celui contre lequel il combattait depuis des générations, plutôt qu'un autre qu'il ne connaît pas, qui a des coutumes différentes, et la cité.
L'étranger, c'est l'ennemi.
Oui, parce que effectivement, on est dans un monde antique, comme je l'ai mis, en inspirant l'antiquité qu'on avait, on a quand même des schémas figés dans lesquels on attend des choses des gens, et auxquels même les gentils, mon héroïne qui a son esclave confidente amante, ne pensera jamais à la franchir. Elle est bien, c'est sa confidente, mais elle a une condition d'esclave, elle lui a dit une fois qu'elle la franchira, elle en conçoit, mais elle ne le fera pas. Et l'esclave en est consciente aussi. Parce qu'elle ne voit pas de mal à ça. Elle est née reine, l'autre est née esclave. C'est comme ça. C'est effectivement un des deux personnages, l'esclave en l'occurrence, est conscient quand même lui de sa situation. Il aimerait bien que ça change. Et le cadre des cannes, lui, pareil, veut changer ce qu'il veut être. Il est censé être descendant d'une lignée de gardes du corps qui sont, au fil des générations, toujours les gardes du corps du Seigneur. À un moment, il se demande pourquoi on ne serait pas le Seigneur. On n'est plus puissant que lui. On le garde, on peut prendre sa place et il le devient.
On continue dans l'ordre.
Voilà.
Ouais, l'ordre.
N'hésitez pas.
Donc on ne lutte pas.
Quand vous n'êtes pas d'accord avec la Gisbonne, n'hésitez pas.
Enfin, je trouve personnellement que l'idée d'un destin divin est quand même particulièrement séduisant. Ça enlève beaucoup de peur, d'angoisse, parce que finalement, c'est jamais vraiment notre faute si on échoue. Par contre, je sais pas trop. Enfin, c'est un petit peu comme ce que vous disiez, Nathalie. c'est aux époques où on se sent chez nous. Je pense que pour moi c'est tellement celte, scandinave, etc. que de toute façon s'il y a un destin divin il est écrit quoi qu'on fasse et on n'a jamais dans ces époques là on n'a jamais demandé à qui que ce soit de faire changer son destin, juste de tenir le coup et de rester droit contre ce qui lui tombait dessus. Et je pense que c'est ça qui est très important, en tout cas qui moi me nourrit dans ces époques là. Du coup je pense que j'ai jamais imaginé un de mes personnages comme en révolte contre ce destin-là. Le destin social beaucoup plus, le destin familial aussi, mais absolument pas le destin viscéral. À partir du moment, si on pense qu'il y a des dieux, on pense qu'ils savent à peu près ce qui se passe, que les choses peuvent être écrites d'avance. Et voilà, il y a... Voilà.
Alors, chez moi, les dieux, ce sont les ennemis. Ce sont les ennemis, parce que ce sont eux qui ont asservi les âmes. Et
les Grecs ?
Non, c'est pas les dieux grecs, c'est les dieux à moi. et au contraire, la grande question du vrai personnage principal du cycle, c'est lui qui est un enfant qui a été créé sous cette date dans la science-fiction, il aurait été génétiquement, on l'aurait créé pour génétique, pour obtenir vraiment ce qu'on voulait. Là, c'est le fruit d'alliances, de mariages successifs, mariages je ne sais pas, parce qu'il est bâtard, en plus métis, bâtard, il a tout pour lui. Mais il vient au monde et on attend de lui qu'il accomplisse une tâche bien précise. Il y avait des prophéties en plus pour l'annoncer, on l'a fait venir pour respecter les prophéties. Et lui, sa quête, ça va être comment être libre avec tout ce fardeau sur le fait de comment être soi-même. Est-ce que je suis moi ou est-ce que je suis juste un outil au service de la cause? Et en même temps, il est aussi l'homme à abattre. Parce qu'il incarne quelque chose que tous les autres êtres vivants de ce monde ont essayé d'éliminer. Parce que c'était aussi un petit peu amusant de voir que souvent dans les histoires de fantasy, il y a le mal, et puis tout le monde s'associe pour éliminer le mal, et puis voilà, celui contre lequel tout le monde s'associe, bah, c'est celui justement qui m'intéresse et qui ne doit pas disparaître. Non, vous vous trompez. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, mais c'est une grande interrogation sur la liberté, et en même temps, une grande démonstration du danger des dogmes. Parce que les autres, ils suivent ce que disent les dieux, et au fur et à mesure, on va se rendre compte que le bien, entre guillemets, qui n'est pas le bien absolu, mais le bien pour chacun, c'est d'être libre, d'être soi-même.
Et si je me souviens bien, parce que j'ai lu votre roman à sa sortie, il y a
septembre 2012.
Voilà, donc ça fait presque un an et demi. Si je me souviens bien dans le roman, il y a d'abord eu la révolte contre les dieux. On a essayé de se révolter, c'est les mages.
Les
mages se sont révoltés.
Il y a eu une hérésie, une secte, la secte des libérateurs, qui a corrompu et dévoyé le message des mages bleus, parce qu'à un moment donné, la tradition orale, elle a un inconvénient, c'est que si on n'est pas constamment là pour la répéter, pour l'expliquer, les gens n'ayant pas de sources écrites pour s'y référer, ils se perdent, ils perdent le sens et ils font des contre-sens. Et eux, ils ont essayé de se révolter contre les dieux en disant qu'il ne faut plus engendrer de corps mortels qui sont les prisons pour les âmes. Donc, effectivement, ils ont commis des atrocités pour supprimer la vie, finalement. Et eux ont provoqué une éradication qui allait très loin, puisque non seulement la secte a été éliminée, mais les ordres religieux ont pris prétexte de cette hérésie pour éliminer les mages bleus qui sont considérés comme la source de cette hérésie, même si eux n'ont jamais professé ce message-là et ont été même victimes des libérateurs.
L'éradication, c'est quelque chose qu'on retrouve qui est à la base du sang des sept rois, en même temps que la révolte quelque part contre un dessein.
Tout à fait. Alors, pour revenir à l'origine de votre question, c'est vrai que la fantaisie des années 50, 60, 70 est très nivolaire, mais elle est aussi dans un monde extrêmement nivolaire. C'est-à-dire qu'il y a, dans les siècles précédents, le paradis et l'enfer. Ensuite, il va y avoir la guerre 14-45, qui est extrêmement nivolaire, qui fait suite à la guerre 14-18, qui l'est aussi. Le monde contre l'Allemagne. Ensuite, il y a la guerre froide, qui oppose la moitié du monde contre l'autre. Et effectivement, les fantaisies à ce moment-là sont imprégnées du contexte politique de l'époque. Aujourd'hui, les religions n'existent plus, on entend au moins que dans nos sociétés occidentales, en tant que moyen de régulation en termes de pouvoir. Et on se retrouve avec une mondialisation dans laquelle les centres décisionnels, les centres de pouvoir sont extrêmement dilués dans un monde qui n'est plus du tout libéral. Et je pense que l'émergence de modèles politiques dans la fantaisie qui effectivement ne reconnaît plus ni le bien, ni le mal, ni le pouvoir, pour faire une citation, eh bien, tout simplement, il reflète aussi du monde dans lequel on vit, dans lequel il n'y a plus de certitude, dans lequel on n'a plus une vérité à se raccrocher, sur laquelle se raccrocher par rapport au bien et au mal. Et donc, la question de la religion, par exemple, dans le sens de ces trois, pour moi, la religion est une création de l'homme. C'est pas quelque chose, les dieux n'existent pas, on fait croire ça pour justement stabiliser la société. Et c'est une vision effectivement extrêmement différente. C'est que le jour où on a besoin de la religion pour justifier les formations et les éradications, on va créer un outil qui s'appelle la religion, qu'on n'a plus besoin, et bien on supprime cette religion parce que ça devient un outil contre-productif. Et là encore, on voit ça en termes d'outils et en termes de besoins sociaux. Et l'éradication, la question, effectivement, que ce soit pendant la guerre 14-45, ou bien que ce soit dans le sens des 7-3, je ne mesure pas égale importance, bien sûr, ni en termes d'enjeu, ni en termes d'importance historique, mais effectivement, c'est toujours une mesure de contrôle de pouvoir. L'éradication, comme on a pu voir dans les guerres balkaniques récentes, par exemple, le eugénisme, le fait d'imposer une descendance des sentences non voulues et, pour mélanger finalement les gènes, pour salir en quelque sorte la descendance d'un peuple, c'est quelque chose qui est de toute éternité, malheureusement. Et si on peut donner une figure au mal, c'est certainement sur la question de la descendance, plus que sur les questions de l'organisation politique. Finalement, ça se traduit très souvent de cette manière-là. C'est pour ça qu'effectivement, l'idée du bordel de militaire de campagne, l'idée du viol, qu'il soit collectif ou individuel, l'idée d'imposer une descendance, une sexualité non plus, c'est quelque chose qui, pour moi, prend finalement cette figure élémentaire qui est de s'imposer dans la descendance. Ou de vouloir détruire une descendance non voulue, et c'est une conception de la machine.
Chez vous, c'est une utilisation très pragmatique de tous les outils possibles, ce qui est aidé parce que, sans trop spoiler, on peut dire quand même que quand on a affaire à des gens qui vivent plusieurs centaines d'années, ils ont une vision différente des choses et de la manière de les faire, et entre autres, ils ont cette vision très eugénique. On utilise les hommes comme on peut croiser le bétail.
Oui, absolument. Alors le problème, c'est pas tellement la longévité. Le problème, c'est surtout la différence de longévité. C'est gradient. C'est-à-dire que si tout le monde vivait ici des centaines d'années, ben voilà, il y a un équilibre qui s'instaurerait, il y aurait encore une filiation, il y aurait des systèmes politiques qui pourraient se stabiliser. Or, il va y avoir des gens qui ont des vies, des espérances de vie médiévales, c'est-à-dire en 30, 40 ans, et il va y avoir à côté de ça des gens qui ont des siècles d'espérance de vie. Et forcément, ça va aboutir à des déséquilibres politiques, parce que il faut que chacun puisse avoir en quelque sorte son tour. On est une société à deux vitesses. Et cette société donc à deux vitesses pose effectivement des problèmes d'équilibre à long terme. Et donc c'est la raison pour laquelle on va supprimer d'un côté, cacher d'un autre, essayer de choisir un des deux systèmes au détriment de l'autre. Et donc naturellement, ça génère des tensions à long terme, parce que ce sont les plus puissants qui sont obligés de se cacher au fond des trous. Et on sait très bien que finalement, c'est un système qui ne peut pas être appuyé à durée. Les plus puissants voudront à un moment donné, même s'ils savent que c'est raisonnable, même s'ils savent à quoi ça mène à long terme, voudront à un moment occuper une place politique.
Alors, comme nous vient de le faire ici, que le temps a passé très vite, une dernière question de ma part avant peut-être de passer aux questions qu'il peut y avoir dans l'assistance. Alors, je ne résiste pas. Savoir, puisqu'on est dans un univers médiéval, nous utilisons tous, je résiste pas à une question un peu provocatrice. Est-ce que ça n'est pas une manière, à travers des fantaisies comme celle-là, de pouvoir promouvoir un certain nombre de notions qui aujourd'hui paraissent parfois un peu désuètes, hein, comme l'honneur, comme la fidélité, le courage, et qu'effectivement, dans un univers à connotation médiévale, on peut faire passer et mettre en exergue ce genre de valeurs, alors que ça serait plus difficile si vous expliquiez la même chose dans un environnement de banlieue urbaine aujourd'hui.
Peut-être, hein, c'est peut-être effectivement, mais je ne suis pas sûr. Hein. Ça dépend certainement des différences. D'un côté, on a quelque chose qui est assez héroïque, mais ce qui différencie le héros, c'est aussi le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a oublié certaines choses, certainement. Les grands héros qu'on cite sont souvent des gens qui étaient là au bon moment, au mauvais moment, et qui se sont sortis quand même. On va tisser toute une histoire qui va leur donner le rang de héros, mais ce sont des gens parfaitement normaux, ou alors ils sont peut-être un peu meilleurs. Les héros de la Grande Guerre, ce sont ceux qui n'ont pas eu la malchance de croiser une grenade. Bon, pourtant ceux qui ont croisé une grenade, on n'entendra pas parler de ces gens-là. Ce qui fait que l'héroïsme, je pense, la question de l'héroïsme et des grandes valeurs de manière générale, c'est surtout une question de la déformation de la vérité. Je pense, hein, je suis pas sûr que ça existe.
Pour moi, l'héroïsme, je pense qu'on ne parle pas de la même chose, et c'est intéressant aussi qu'il y ait deux définitions. C'est, par exemple, quand on lit les campagnes de Napoléon et les carnets du sergent Bourgogne, pour moi, effectivement, ça n'a rien à voir avec, avec une grenade ou autre. Il y a des gens qui sont rentrés et qui peuvent se vanter, et les gens qui ne sont pas rentrés et que tout le monde a oublié. Mais pour moi, l'héroïsme dont j'ai envie de parler dans mes livres, c'est ben, simplement les gens qui ont fait ce qu'ils ont pu jusqu'à ce que soit ils rentrent chez eux ou soit ils tombent sur une grenade. Et je pense, et ça c'est personnel, qu'effectivement on est dans une époque où on vide très facilement les choses de leur sens profond, en tout cas. C'est facile de faire de la pub, c'est facile de dire aux gens que de toute façon ils ne seront jamais parfaits, c'est facile de dire que c'est l'apparence physique qui vaut tout et n'importe quoi. Et je ne ressens absolument pas ça. Et effectivement, dans une époque comme le Moyen-Âge, comme plein d'autres époques, je ne retrouve pas ça, ou en tout cas en tant qu'écrivain, on a la liberté de parler de ça sans être tourné en dérision.
Effectivement, là je rejoins totalement Justine, et dans mes romans j'ai toujours mis des personnages qui sont toujours légendaires, même si c'est une science-fiction, parce que ça c'est un truc dont je ne peux pas me défaire, mais ils sont légendaires, pas parce qu'ils sont des gentils ou des méchants, parce que justement ils font le maximum. Ils défendent toujours quelque chose. Alors, on peut ne pas être d'accord avec eux, mais ils se battent toujours pour quelque chose. D'où le terme dans Sacrifice de guerrier, de vrai guerrier. D'ailleurs, je n'emploie le terme de guerrier que pour certains personnages. Les autres sont des combattants. Alors que les guerriers défendent quelque chose. Et ils font de leur mieux, avec tout ce qu'il y a autour. Pas forcément bien, mais ils font de leur mieux. Ce qu'on ne peut plus faire, je pense, de nos jours, parce que bon, on n'est pas dans le même contexte, heureusement, hein, je préfère vivre maintenant qu'au Moyen-Âge, ou alors, comme dirait Nathalie, dans une grotte, avec un ordinateur et la DSL, et personne autour, loin.
Moi, je pense que ce qui est... Pourquoi ces époques-là, c'est aussi parce que c'est un contexte dans lequel on peut avoir un monde dans lequel l'argent n'est pas roi, l'argent n'est pas le dieu, ce n'est pas le profit commercial qui va déterminer le héros, puisque le héros à l'heure actuelle c'est celui qui gagne le fric, mais c'est celui qui est médiatisé. On va avoir des gens qui sont des vrais héros au quotidien parce qu'ils font leur mieux, parce qu'ils sont le centre du pouvoir, le centre du sacrifice, et ces gens-là on ne va pas en parler. Par contre, on va vous parler de la petite racaille du coin qui fait Secret Story ou autre machin de début. Et ça, c'est des choses qui me révoltent profondément. Je sais pas, je suis arrivée à un stade où le pouvoir de l'argent m'insupporte. Et où, si je pouvais, je donnerais tous mes textes gratuitement à qui on voudrait. Parce que la seule chose qui compte, c'est de pouvoir communiquer, partager les données. Et dans ces contextes-là, en tout cas dans mon histoire, c'est pas l'argent, c'est pas le profit financier et c'est pas le pouvoir non plus pour le pouvoir, c'est une espèce d'avidité qu'on constate à l'heure actuelle chez le gouvernement quel qu'il soit, qui permet de se dire que les héros seront jamais à moi.
Je crois que là, on finit de me faire des gros yeux, donc je pense qu'on a le temps éventuellement pour une question, s'il y en a. Silence éloquent, donc cela prouve que nos quatre intervenants ont tout couvert, ont répondu à toutes vos attentes, donc je crois que c'est la fin, il ne nous reste plus qu'à les remercier.